Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal après la décision du Conseil constitutionnel d'invalider les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade. Ces deux figures de l'opposition font les frais de leur déboire judiciaire. Je vous rappelle tout de même que l'ancien maire de Dakar a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics et le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a lui été condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. En tout cas, sans surprise, les partisans de Khalifa Sall et de Karim Wade dénoncent une stratégie du pouvoir pour permettre la réélection de Macky Sall. Alors dites-nous si désormais le président sortant a un boulevard devant lui pour gagner un second mandat. On en parlera dans une demi-heure. D'ici là, continuez à nous appeler, à nous rejoindre ici à Paris, 33 9 693 693 70. Je lirai évidemment quelques un des commentaires postés sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité ou encore des commentaires que nous recevons sur le compte WhatsApp de l'émission 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien appelez-nous et on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre avec nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux. Première question, est-ce bon ? Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et tous les journalistes de la radio FI.
Merci, vous nous appelez de Chang et vous avez des questions sur l'assassinat du journaliste ghanéen Ahmed Youssen.
Voilà, au Ghana, un journaliste d'investigation avait été assassiné dans les rues d'Accra alors qu'il avait réalisé des enquêtes sur la corruption du football africain. Alors, ma question est de savoir, que savez-vous de ton enquête sur la corruption du football africain? Est-ce qu'il y avait des dispositifs pris pour assurer sa sécurité à cause de sa plainte déposée auparavant, car il semblait craindre pour sa sécurité?
Ouais, c'est vrai que ce journaliste se savait menacé de mort. Bonjour Michel Arsenault.
Bonjour Esbon, bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, Ahmed Youssen, abattu la semaine dernière en pleine rue de 2 balles dans la poitrine et 1 dans le cou. Alors ce journaliste d'investigation était surtout connu pour avoir enquêté durant 2 ans sur un vaste scandale de corruption dans le football africain. Que sait-on de cette enquête?
Écoutez, cette enquête, on l'a vu il y a 8 mois, hein, ça a donné lieu à un documentaire qui a fait grand bruit quelques jours à peine avant la Coupe du Monde. Donc ça s'appelle Number 12, numéro 12. Et c'était un travail colossal, hein, 2 ans de boulot. Mais bon, il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus. On ne sait pas pourquoi ce collègue a été assassiné. La police est encore en train de faire enquête à Accra. Est-ce que c'est lié à son enquête sur la corruption dans le foot? Est-ce que c'est pas plutôt lié à une enquête plus récente? Parce que ça remonte quand même à il y a 8 mois, on peut le penser. On ne sait rien sur les sujets sur lesquels il a travaillé au cours des 8 derniers mois. Parce que c'est leur marque de fabrique d'une certaine façon.
La marque de fabrique de cette structure qui s'appelle l'œil du tigre.
Exactement. Alors eux, c'est on ne dit rien, on ne révèle rien qui pourrait entraver le travail. Et on sait qu'elle est dirigée par ce journaliste vedette, hein, Anas Aremeya Anas, qui ne montre jamais son visage. Vous avez peut-être vu ses photos, hein. Il couvre son visage, il utilise des masques, des espèces de voiles de guirlandes, de perles de verre, qui lui recouvrent complètement le visage. Et on devine bien pourquoi. Parce qu'il s'attaque à des sujets extrêmement délicats. Au Mali, ils ont travaillé sur les crimes rituels. Vous savez, ces meurtres que certaines personnes font passer pour des sacrifices. On peut penser que son assassinat a aussi quelque chose à voir avec le travail sur la corruption dans le foot, donc qu'il a fait l'an dernier, parce que dans ce documentaire, je vous le rappelle, hein, on voyait des centaines de personnes, y compris des arbitres et des arbitres assistants, des gens dont on voyait le visage, des gens dont on donnait les noms, accepter des liasses de billets. Et pour certains parlementaires de l'opposition au Ghana, il s'agirait de représailles. C'est un peu tôt pour le dire, oui. Mais cas, il peut y avoir un lien.
Il peut y avoir un lien, d'autant qu'après la diffusion de ce documentaire, notamment sur la BBC, la Confédération africaine de football a décidé de suspendre une cinquantaine d'arbitres et de dissoudre des comités permanents de la Fédération ghanéenne de football. Autrement dit, Ahmed Hussein avait finalement beaucoup d'ennemis.
Il n'avait pas que des amis. Même, vous savez, le président de l'Association ghanéenne de football avait été limogé. Donc, il s'était mis à dos beaucoup de monde.
Il se savait menacé. Il avait d'ailleurs déposé une plainte. Bénéficiait-il de mesures de sécurité particulières?
Non. Oui, il avait porté plainte contre un député du parti au pouvoir, Kennedy Agyapong, qui avait promis à la télévision une récompense à qui le passerait à tabac. Ce député était allé même plus loin, disant qu'il prendrait en charge les frais de cette personne, laissant penser qu'il pourrait assumer les frais de sa défense. Quelles dispositions avaient été prises par suite de ces déclarations? Ben, pas grand chose en réalité. La police dit avoir interviewé le député, selon l'avocat des journalistes de Tiger Eye à qui j'ai parlé. Mais Kissi Adjebeng, maître Adjebeng, souligne qu'on est bien loin d'un interrogatoire en bonne et due forme. Même son cloche dans les rangs de l'opposition. Hier, lors d'une conférence de presse, un député de l'opposition, James Agalga, a affirmé que ce député du parti au pouvoir, Kennedy Agyapong, n'avait pas interrogé par la police, puis que les autorités l'avaient laissé prendre l'avion pour Dubaï, qui ne serait peut-être pas sa destination finale.
Où pourrait-il être?
Ah ben, on ne le sait pas, mais certainement pas aux États-Unis, parce que là-bas, l'assassinat de Ahmed Hussein Swale n'est pas passé inaperçu. Pour un parlementaire américain, le représentant Hank Johnson, Washington devrait envisager d'adopter des sanctions contre le député Kennedy Agyapong, du fait de ses menaces, l'interdire de séjourner aux États-Unis et même geler ses avoirs dans des banques américaines. À ses yeux, les États-Unis pourraient même, ou devraient même, proposer l'aide du FBI à la police ghanéenne dans cette affaire.
À suivre donc. A-t-on répondu à vos questions, est-ce bon?
Oui, je suis parfaitement satisfait.
Eh bien, merci de votre fidélité. On vous souhaite une bonne journée à Chang.
Merci.
Au Cameroun, et merci à Michel Asselineau d'être venu dans ce studio vous répondre. 9h18 ici à Paris, 33 9 693 693 70, des questions concernant le Brésil et cette décision prise il y a quelques jours par le tout nouveau président Bolsonaro. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Douala également, vous êtes au Cameroun.
C'est exactement ça.
On vous écoute.
Oui, le président brésilien Jair Bolsonaro a signé un décret qui facilite la détention d'armes à feu. J'ai deux questions à ce sujet.
Oui.
Comment expliquer cette décision dans l'un des pays les plus violents au monde?
Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question avec Maria Emilia Alencar, chef de la rédaction brésilienne de RFI. Bonjour Maria Emilia.
Bonjour Juan, bonjour
merci
Rodrigue.
Merci d'être avec nous. Alors désormais, les Brésiliens ont le droit de détenir jusqu'à 4 armes à feu. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre cette décision du président Bolsonaro quand on sait qu'au Brésil, il y a, alors c'est un chiffre qui circule, un meurtre toutes les 8 minutes à cause des armes à feu. Comment expliquer cette décision de Bolsonaro?
C'était Bolsonaro a tenu une de ses promesses phares de campagne. D'ailleurs, son geste devant les caméras, tout le monde a vu, en imitant une mitraillette avec ses mains ou un pistolet, est devenu sa marque de fabrique pendant toute la campagne. Donc, par cette première mesure, il satisfait la partie la plus extrémiste de son électorat. Il satisfait aussi les groupes parlementaires qui défendent les lobbies des armes à feu, dont il a fait partie pendant longtemps, et une frange de la population, de la classe moyenne et riche, qui s'estime les victimes potentielles des cambriolages et de la violence. Au moment de la signature du décret, la semaine dernière, il a déclaré que cette mesure visait à garantir les droits à la légitime défense aux bons citoyens. Le président brésilien a toujours considéré la loi sur le désarmement de 2003, promulguée sous le gouvernement du Parti des travailleurs de gauche, comme une offense aux libertés fondamentales du citoyen de bien.
Oui, alors que les spécialistes, eux, affirment que grâce à la loi votée sous Lula, cela a permis d'épargner au moins 160 000 vies au Brésil. En tout cas, vous le disiez, c'était l'une des principales promesses de campagne. Rodrigue, vous avez une autre question?
Oui, justement. Est-ce que le décret prévoit des conditions à respecter pour procéder dans ma feu et quelles sont les démarches à suivre?
Alors, j'imagine qu'il y a des critères à respecter pour se procurer une arme à feu, Marie et Emilia.
Bien sûr. Bon, désormais, tout Brésilien âgé d'au moins 25 ans et sans antécédent pénal qui a un emploi et un domicile fixe pourra, après une évaluation psychologique et un entraînement rapide, acheter jusqu'à, comme vous avez dit, 4 armes à feu. Avant la signature de ces décrets, la possession d'armes n'était pas interdite, il faut savoir. Mais les citoyens brésiliens devaient justifier d'un besoin de se défendre en faisant par exemple état des menaces spécifiques.
Ah, il fallait prouver qu'on était menacé pour pouvoir acheter une arme.
Exactement, et c'était très subjectif cette histoire. C'était la police fédérale qui évaluait si les citoyens avaient ou non besoin d'une arme. Maintenant, ce verrou disparaît. Vivre dans un état du Brésil où les taux d'homicide est supérieur à 10 pour 5 000, ce qui est le cas de tous les États, ça suffit, ou vivre dans les zones rurales, tout ça est désormais considéré comme suffisant pour posséder une arme.
Oui. Alors c'est un peu paradoxal tout de même, Maria Emilia Alencar, c'était l'une des promesses de campagne de Jair Bolsonaro, et en même temps, les instituts de sondage disent tous à peu près la même chose, la grande majorité des Brésiliens s'opposent à cette mesure.
Complètement. Mais Bolsonaro se base beaucoup sur l'idée de les droits du citoyen de disposer d'avoir une légitime défense. Il y a eu vraiment un référendum en 2005 dont la population a dit qu'il voulait avoir la possibilité d'acheter des armes. Mmh. Et il se base beaucoup dans cette histoire-là pour dire que sa mesure est légitime. Mais c'est vrai que ce qui est important aussi de citer, c'est que avec cette mesure, il va bientôt, peut-être dans une semaine, il va légaliser environ 8 millions d'armes qui sont illégales ou qui ont une licence périmée. Avec, il faut prouver que la procédance de cette arme, des petites conditions. Mais évidemment, il continue un peu l'idée, limite un peu Trump dans cette idée de les citoyens, il a les droits à se défendre.
De se défendre, effectivement.
Donc, et c'est important aussi de montrer que c'est pas les ports d'armes. On parle toujours de la détention d'armes, mais les ports d'armes, sûrement, ça va être la prochaine mesure.
À suivre.
À suivre.
À suivre donc. Merci beaucoup, Maria Emilia Alencar, de la rédaction brésilienne de RFI. Rodrigue, bonne journée à Douala, au Cameroun. Nous accueillons Vincent, en ligne d'Abidjan. Bonjour à vous.
Bonjour, Ron Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Des questions sur les manifestations contre la vie chère au Zimbabwe.
Tout à fait. Alors, depuis une semaine, nous avons assisté à des manifestations entraînant de nombreuses arrestations en cause de la récente décision du gouvernement d'augmenter drastiquement le prix du carburant. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont les raisons que le gouvernement avance pour justifier l'usage de cette violence?
Oui, la répression des manifestations a fait 5 morts selon les autorités, 12 au moins selon les ONG. On parle de 78 blessés par balle et quelques 700 personnes arrêtées. Bonjour Alexandra Bonjon.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Le Zimbabwe a donc entamé hier une deuxième semaine de grève générale pour dénoncer la hausse des prix et notamment le doublement des prix du carburant. Comment expliquer la brutalité des forces de l'ordre?
Alors, déjà peut-être pour commencer, on peut remettre dans le contexte ces manifestations. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été élu avec la promesse de relancer l'économie. C'était en juillet dernier. Depuis quelques mois, il y a d'importantes crises sociales, hausse des prix des produits de première nécessité, donc pain, le riz, donc la grogne est très importante. Il y a 10 jours, vous le disiez, le gouvernement annonce une nouvelle hausse. Cette fois-ci, c'est le prix des carburants. Et là, la principale confédération syndicale, la ZCTU, annonce ces 3 jours de grève. Donc, en effet, dès le premier jour, donc lundi dernier, manifestation, il y a eu des heurts entre police et manifestants, notamment dans certains quartiers populaires, en périphérie de la capitale, où des jeunes avaient bloqué des routes pour empêcher les gens d'aller travailler. Il y a eu également beaucoup de pillages de magasins dans le centre d'Harare. Et les forces de l'ordre ont rapidement réagi, se déployant dans les rues et procédant à des arrestations. Elles justifient ça en disant qu'elles doivent maintenir l'ordre public. Alors ensuite, ces arrestations, en tout cas celles dont on nous a fait part, sont parfois des arrestations arbitraires. par exemple, le cas classique qu'on nous a rapporté, des hommes armés, des fois habillés en civil, qui arrivent le soir, font des descentes dans les quartiers populaires, défoncent les portes des domiciles, tabassent les occupants et embarquent certaines personnes. C'est là où les différentes organisations des droits de l'homme ont donné l'alerte, parlant d'arrestations arbitraires et d'utilisation excessive de la violence afin d'intimider la population. Ces arrestations ont eu lieu toute la semaine dernière, jusqu'à hier, et un peu plus tard dans la semaine, le gouvernement, pour justifier cette répression, à nouveau affirmé qu'il y avait des éléments venant de l'étranger dont le but était de déstabiliser le régime. Donc voilà, c'est toute une logique. Les autorités de leur côté ont également coupé l'internet durant pratiquement 48 heures.
Rétabli hier, visiblement.
Rétabli, oui.
La demande d'un juge.
Oui, exactement, tout à fait, puisque les ONG ont apporté ça devant la justice et que la justice a tranché. Pourquoi c'est important ? Parce que couper l'internet, ça empêche les syndicats de se mobiliser, de s'organiser et de communiquer, y compris avec l'extérieur.
Autre question, Vincent ?
Tout à fait. Alors, le mercredi 16 janvier, dans la matinée, on a appris que le pasteur Evan a été arrêté pour une supposée incitation à la violence publique, selon Béatrice, avocat du pasteur. Alors ma question est de savoir quel est le degré d'implication de ce pasteur et quelles sont ses nouvelles aujourd'hui.
Oui, le pasteur
Mawarire,
c'est ça, arrêté à son domicile dans la capitale. On l'accuse de quoi exactement? Il est très populaire sur place.
Il est très populaire. Ça a été le leader des manifestations antigouvernementales de 2016. Pour rappel, un jour, il s'est filmé avec le drapeau zimbabwéen sur les épaules. Et là, il a commencé à parler de son amour pour le pays et de sa colère vis-à-vis des autorités. Il a mis cette vidéo en ligne. Et c'est comme ça qu'il est devenu connu et que le mouvement a commencé. Le mouvement Death Flag, ce drapeau. Et donc, dans ce cas précis, il a tout simplement appelé les Zimbabwéens via les réseaux sociaux à suivre la grève. Et donc, dans la foulée, il a été arrêté, votre auditeur le disait, mercredi dernier, accusé d'incitation à la violence publique et inculpé pour trahison. Tout simplement, les autorités ont eu peur que, de par sa notoriété, il suscite un nouvel engouement et provoque un important mouvement de contestation. Donc là, il est actuellement en détention.
Depuis une semaine. D'autres personnalités depuis ont été interpellées.
Oui, nombreuses personnalités. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, hier après-midi, le secrétaire général du syndicat la ZCTU qui a été arrêté. La ZCTU, c'est ceux qui ont appelé à cette grève générale. Donc, il s'agit de Jafet Muyo, qui a été interpellé à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Et il est accusé de tentative de renverser le gouvernement. Donc, c'est des accusations assez graves. Il y a également un leader du principal syndicat des enseignants, plusieurs parlementaires du MDC, le mouvement pour le changement démocratique, c'est l'opposition. Et puis, sans parler de la centaine d'anonymes qui ont été arrêtés durant cette dernière semaine.
Ouais, on parle de 700 personnes interpellées.
Oui, c'est impossible à définir.
À définir, mais c'est un chiffre en tout cas fourni par une coalition d'ONG.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup. A-t-on répondu à vos questions, Vincent ?
Tout à fait, vous avez répondu à mes deux questions. Merci beaucoup à la RFI et passez une très bonne journée.
Un grand merci surtout à Alexandra Branjon. 9h bientôt 29 ici à Paris. On va retrouver évidemment dans une minute l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Vous avez peut-être pris en cours l'émission, vous souhaitiez réécouter quelques-unes des réponses de nos experts de la rédaction. Eh bien, rendez-vous dès maintenant sur notre application Pure Radio ou sur le site internet rfi.fr dans la rubrique émission et vous pouvez réécouter à volonté, évidemment, les réponses de la rédaction de RFI à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité. Dans 10 minutes, nous lancerons le débat sur l'élection présidentielle au Sénégal. Ce sera dans un tout petit peu plus d'un mois avec cette configuration. Les deux figures principales de l'opposition ne seront pas candidates. Ainsi, on a décidé le Conseil constitutionnel. Elle a invalidé la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade, et la question que nous posons ce matin. Le président sortant Macky Sall a-t-il désormais un boulevard devant lui pour gagner un second mandat? On vous attend 33 9 693 693 70. À tout de suite.
Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec appel sur l'actualité.